Bonjour, c'est Nathalie Lévy. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast décliné de mon livre Courage au cœur et sac au dos aux éditions du Rocher, production Benjamin Vincent, Watch Audio. D'ailleurs, en passant, abonnez-vous, c'est gratuit. On va vivre ensemble une nouvelle belle histoire de transmission, de partage infini et d'entraide aussi. Vous allez voir. Bonjour Charles.
Bonjour Nathalie.
Charles, qui es-tu? D'où viens-tu?
Alors, je suis lyonnais, j'habite en ce moment à Paris depuis quelques mois. Je suis chef de projet freelance, je travaille avec des artistes et des écrivains sur leur stratégie digitale de développement.
Charles, de qui parle-t-on aujourd'hui, ici, ensemble?
Alors aujourd'hui, je vais parler de ma relation avec ma grand-mère, en particulier grand-mère paternelle. Avec qui j'entretiens des relations de petit-fils normales, mais avec qui on a développé une affinité particulière via le Covid en particulier récemment, et puis qui a toujours été plus ou moins proche de nous. J'ai jamais connu mon grand-père, donc voilà, c'est aujourd'hui le thème principal, c'est la relation que j'ai pu avoir avec cette dame. Veuve depuis 26 ans et j'en ai 24, donc que j'ai toujours connu dans cet état de solitude un peu contraint, voilà.
Donc tu vis à Paris, elle vit à Lyon.
C'est ça.
Tu vas la voir, elle précisément?
Oui. Mais je rentre assez souvent à Lyon, j'ai ma famille là-bas, j'aime y aller. J'aime y aller assez régulièrement, au moins une fois par mois, minimum, pour respirer un peu d'une part et puis pour pouvoir un peu voir tout le monde. Et c'est vrai que j'essaye à chaque fois d'aller prendre le café, le déjeuner, le dîner chez elle. Voilà, pour maintenir le lien et lui raconter un peu tout ce qui se passe dans ma vie depuis quelques mois, ce qui est pas mal de choses.
Comment tu qualifierais ta relation avec elle ?
Je pense pas avoir une relation particulière. En fait, en tout cas, j'ai du mal à me mettre dans la peau d'autres petits-enfants. Donc moi, j'ai une relation que j'ai toujours considérée normale avec elle. Peut-être qu'elle ne l'est pas. C'est une grand-mère particulière. Quand j'avais mon autre grand-mère, et qu'à un moment, quand j'étais au cours d'une réunion de famille, de cousins, je devais avoir moins d'une dizaine d'années, on avait mis la question « Quelle est ta grand-mère préférée ?» J'avais pas été tellement capable de répondre sur les mêmes points. Mon autre grand-mère est une personne extrêmement douce, la gentillesse incarnée, etc. Cette grand-mère-là, bonne maman, c'est un peu différent, puisque c'est une personne, donc, comme je disais, qui a jamais bien vécu d'être veuve, d'avoir perdu son mari avant que moi je ne la rencontre, et qui donc a toujours été dans cette espèce d'état un peu facilement déprimé. Pour une personne qui avait passé sa vie à courir le monde, à accompagner les enfants au bord de la mer en vacances, c'était son travail, qui avait connu tout un tas de trucs, qui avait tout tenté, elle ne cesse de nous répéter d'ailleurs qu'elle a fait plein de trucs, donc elle regrette absolument pas sa vie, mais dans cette phrase est toujours comblée d'un peu de regret de plus pouvoir faire les choses, etc. Donc j'ai une relation un peu de soutien moral, j'ai l'impression. Qui n'a pas toujours été simple à assumer, puisque venant d'une grand-mère, on n'attend pas forcément cette responsabilité-là, mais qui a toujours été un soutien aussi de s'émerveiller devant ce qu'on pouvait nous donner et réaliser dans notre vie. Donc c'est une relation un peu étrange que j'entretiens.
Et tu sens que ça lui est bénéfique? Elle t'en parle? Elle te dit quelque chose à ce sujet?
Très peu. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu déjà beaucoup de conversations très profondes dans ce sens-là avec elle. Alors à moins d'aller les chercher, elle en parle assez facilement de ses déprimes, du fait qu'elle s'ennuie parfois, elle en parle ou elle le fait savoir, parfois physiquement. En tout cas, elle arrive à faire savoir qu'elle a ces besoins-là. Elle sait nous remercier d'avoir été là. C'est pas toujours des mots, C'est des remerciements, des yeux un peu plus humides au moment où on s'en va, ce qui est assez déchirant à certains moments, enfin voir en fait à chaque fois. Un petit billet retrouvé dans la poche du manteau une fois arrivé à la maison, voire en fait carrément quelques jours après, sur lequel on réagit toujours oh, « mais t'es folle, machin !» Mais ce n'est pas des cadeaux négociables, donc, donc on les prend avec grand plaisir. Voilà, ouais.
C'est très émouvant de t'entendre, particulièrement parce que t'es un jeune homme, très jeune, 24 ans, et c'est quand même pas si fréquent. Est-ce que tu te sens un peu, de par cette relation, même si tu pars sans doute par modestie, tu dis qu'elle n'est pas si incroyable, cette histoire, cette relation, mais évidemment qu'elle est singulière. Est-ce que tu t'en rends compte de ça quand même, par rapport aux autres, par rapport à tes potes, tout ça? Tu sens que tu as un truc en plus ou un truc différent parce que cette relation intergénérationnelle?
Je pense que la principale différence, c'est toujours cette notion de responsabilité et puis d'une certaine richesse qu'on peut rencontrer. Je suis assez passionné d'histoire, des relations humaines, et en fait on a parfois tendance à oublier qu'on a des exemples de sagesse autour de nous. Alors de sages, voilà, c'est pas forcément des sages, voilà, ni forcément porteurs de messages philosophiques particuliers, mais en revanche on a dans les personnes âgées, dans les grands-parents, cette expérience de la vie qui n'est pas toujours facile à aller chercher, puisque je pense que même moi, si je recevais aujourd'hui un enfant de 10 ans qui me demandait ce que c'est la vie, je ne suis pas sûr d'être capable d'y répondre mieux que ça. Mais en tout cas, aller chercher des éléments de réponse dans les grands-parents, je pense que c'est quelque chose qui est très important, et c'est quelque chose que j'arrive à faire avec cette grand-mère-là.
Elle s'appelle comment, cette grand-mère-là?
Elle s'appelle Michel.
Du coup, ta vie maintenant, c'est quand même Paris.
Ouais.
Tu lui racontes donc, c'est ce que tu me disais. Tu lui racontes et comment elle réagit? Parce que voilà, il y a quand même, t'es dans un univers à la fois les médias, la musique, l'artistique, etc. Comment elle réagit à tout ça? Elle y est sensible?
Alors, la grande difficulté que j'ai maintenant, il faut ça. Avant, la musique, on a toujours beaucoup écouté de musique.
Ensemble.
Alors ensemble aussi, mais je suis né de parents qu'on a toujours écouté. Et je suis né de grands-parents qu'on a toujours écouté aussi, ce qui est déjà un peu plus rare parce que les médias étaient peut-être un peu moins communs qu'ils peuvent l'être maintenant. Donc toutes les discussions sur la musique, on les a. Particulièrement sur du classique et du jazz avec elle. En revanche, maintenant, les tenants et les aboutissants de mon métier qui sont beaucoup plus tournés vers le digital, c'est déjà beaucoup plus compliqué depuis quelques mois. Donc j'essaye de les développer d'une autre manière, voilà, en expliquant que voilà, un téléphone, ça peut permettre de se connecter avec tout un tas de gens, qu'on peut mettre des mini formats de films sur Internet, puisque Internet maintenant c'est bon, c'est rentré, mais ouais, y a toujours un peu ces sujets, c'est pas toujours simple. Donc en fait, j'essaie de la rejoindre sur des champs qu'elle comprend facilement. Parce qu'après, le développement de projets, le développement d'une entreprise, c'est quand même quelque chose qui lui est familier. Elle était dans le textile, elle, mais voilà, on peut partager sur ces sujets-là, ouais.
Est-ce que tu en parles avec tes parents, et de quelle manière? Est-ce qu'ils sentent ça? Est-ce qu'ils sont au fait de cette relation quand même un peu différente avec elle?
On a toujours eu, elle a toujours été importante. On s'est toujours dit voilà, il faut qu'on appelle bonne maman, il faut qu'on soit là, machin, l'inviter pour les vacances, etc. En fait, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce que je sais absolument pas la relation que peuvent avoir mes deux plus jeunes sœurs avec elle. Moi, j'aime bien aller chez elle seule. Puisqu'en fait, ça lui arrive d'inviter beaucoup, beaucoup de monde. Encore il y a 2-3 jours, j'étais chez elle pour une petite réunion de famille pour fêter la promotion d'un cousin. Elle s'efface complètement. Elle se met au service, se met à transporter des plats qui sont beaucoup trop lourds pour elle. Et donc, donc elle se fait engueuler par du coup nous. mais voilà, elle s'efface totalement. Alors que quand je suis tout seul avec elle, ce qui a été le cas pendant le confinement pour un petit bout de temps, là on réussit à avoir des relations beaucoup plus personnelles. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, je pense. Puisqu'en fait, je n'ai jamais eu de discussion à trois avec elle. C'est toujours, ou très peu en tout cas, et seulement avec certains cousins. Je sais pas ce qu'elle entre, je sais pas de quoi elle parle avec ma sœur, je sais pas de quoi elle parle avec mon autre sœur, je sais pas de quoi elle parle avec mes cousins, avec mon père, avec tout ça. Donc non, on les évoque assez peu. En revanche, par contre, on parle d'elle, bien sûr.
Alors le confinement, venons-y. Ça a été évidemment une période compliquée. Peut-être pour toi qui étais à Paris, un départ sur Lyon précipité. Comment ça s'est passé et comment ça s'est passé avec elle, bien sûr?
Alors, le confinement, j'étais en Écosse quand Emmanuel Macron a fait son discours. Donc j'ai commencé à avoir des appels de mes proches qui m'ont dit qu'il fallait que je rentre. Et puis bon, moi, j'étais bien. Donc voilà, je suis rentré le lundi pour un confinement qui commençait le mardi matin. Donc juste à l'heure. Et j'étais étonné de rentrer à la maison et de me rendre compte que bonne maman n'était pas là, qu'elle avait pas été, enfin que mes parents avaient pas fait la démarche de la faire venir à emménager avec nous, parce que on sentait bien que ça allait pas durer 2 semaines pour une maladie qui mettait déjà 2 semaines à se déclarer. On savait bien que ça durerait minimum 1 mois, donc 1 mois c'est quand même beaucoup. Sur un début de confinement, on n'avait pas le droit non plus de sortir à plus de quelques kilomètres de chez soi, pas plus d'un quart d'heure, c'était quand même des difficultés. Et en fait, c'était tout simplement pour son confort à elle. C'est aussi une notion qu'on a du mal à assimiler, en tout cas moi étant âgé de 24 ans, la notion de confort et de routine, c'est une notion que j'essaye d'éviter un maximum. Peut-être que c'est moi, mais je pense que c'est l'âge aussi. Alors que passé la 80aine, on est face à des personnes qui aiment avoir leur rythme à eux, se lever à l'heure qu'ils veulent. Sinon, ça les fatigue énormément et psychologiquement, ça tient pas, ils ne passent pas un bon moment. Donc en fait, on avait pris cette décision-là. Mais du coup, rapidement, la ronde s'est mise en place pour aller la voir. Donc on arrivait, on parlait sur le palier avec 5 mètres d'écart. J'ai dû faire ses courses aussi, les courses qui restaient sur le palier pendant 2 jours, le temps que d'éventuelles contaminations. Enfin bref, on avait mis un peu tout ça en place. À une époque, on savait pas non plus comment gérer ça, même si on sait toujours pas trop comment gérer ça, mais on savait pas vraiment par quoi ça se diffusait. Donc est-ce que c'est simplement un toucher de la main, est-ce que c'est donc on voilà. Et en fait, passé un mois, c'est une personne qui a tendance à tomber malade un peu pour des raisons obscures parfois. Donc elle a jamais bien supporté la solitude, etc. Donc là, elle commence à nous sortir un rhume. Donc elle avait du mal à parler, elle avait mal au dos, elle dormait énormément, et puis elle était pas bien au téléphone quand on allait la voir. Ça allait pas, elle était pas malade. Enfin, elle était, comment dire, c'était pas une maladie justifiée qu'elle aurait pu attraper nulle part. Il faisait 20-25 degrés dans son appartement, il n'y avait aucun moyen qu'elle attrape un rhume. Mais en fait, c'est des maladies qui se déclarent en fait avec elle quand elle est en train de partir en déprime. Alors, pour une personne qui est déjà facilement sensible à ça, un mois toute seule, sans pouvoir sortir, puisqu'elle ne sortait même pas du coup, par peur, par précaution, etc. Très rapidement, il y a ces espèces de maladies qui se mettent en place. Voilà, donc on a arrêté d'allumer la télé. Parce qu'au bout d'un moment, ça tournait un peu en boucle sur un sujet qu'on maîtrisait pas et qui était toujours plus terrifiant, avec le ministre qui nous rappelait chaque jour les nombres de morts, etc. Nous, on a coupé la télé. J'ai coupé la télé chez ma grand-mère. En tout cas, c'est les chaînes d'infos qui nous informaient, qui étaient très utiles dans une certaine mesure. Mais au bout d'un moment, ça devenait presque oppressant. La radio, on pouvait pas ouvrir le moindre média pour s'informer normalement sans avoir le nombre de personnes qui étaient décédées dans la région, nationalement, dans le monde. Donc c'était un peu oppressant. Et finalement, on a pris la décision. J'ai pris la décision d'abord en consultant mes parents et mes cousins, oncles et tantes, médecins, etc. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Est-ce qu'il faut que je prenne un risque d'aller potentiellement contaminer ma grand-mère, ou est-ce que je choisis de lutter contre le Covid ou contre la solitude ? Et on a choisi la solitude. en prenant toutes les précautions, bien sûr. Donc je suis parti vivre chez elle pendant un mois. Donc elle habite pas très très loin de chez nous, hein. C'est 25 minutes, une demi-heure de marche. Et en fait, j'ai décidé de faire les trajets. Donc j'avais petit déjeuner et dîner avec elle, et j'allais travailler la journée chez moi, enfin chez mes parents, et faire les allers-retours. Donc c'était un peu pirate parce qu'on n'avait pas le droit de le faire, évidemment, mais il y a un moment il fallait que ça s'arrête, parce que malheureusement on voyait les résultats dans les EHPAD, parce que moi je reste convaincu que le nombre de morts a aussi été dû à ces enjeux liés à la solitude. Et quand on est en mesure de faire quelque chose, le Covid, on pouvait rien faire, personne ne pouvait rien faire apparemment, à part monsieur Raoult, mais apparemment, on n'avait pas d'optique de on voyait, c'était pas solvable, alors que là, la solitude, c'était quelque chose qu'à mon échelle, je pouvais influencer. Et du coup, cette décision de prendre un peu des risques, et c'était super, parce que 3 semaines, 1 mois avec une personne comme ça, on finit par se parler de plein de trucs. Alors il y a des difficultés, bien sûr, hein, puisqu'on n'a pas le même rythme, et c'est pour ça que j'avais pris la décision de continuer à travailler chez moi. En revanche, il y a des discussions très intéressantes sur tout un tas de sujets. On peut prendre le temps d'expliquer vraiment les choses. Là où dans une conversation d'une heure, on n'aurait pas forcément le temps d'expliquer ce que c'est que le marketing digital, peut-être que là, on peut s'étendre un peu plus longtemps. Et voilà, donc c'est des sujets extrêmement, extrêmement importants, et c'est des moments vraiment privilégiés. Voilà.
Donc tu décides, on est en plein Covid, tu décides de t'installer chez ta grand-mère, ce qui est quand même assez rarissime comme décision. Du haut de tes 24 ans, etc., tes centres d'intérêt, etc., elle était malade, tu nous le disais il y a quelques minutes. Alors c'était des mots sans doute un peu psychosomatiques, mais voilà. Ouais. Est-ce que à partir du moment où tu t'installes avec elle, elle continue à souffrir de quoi que ce soit?
C'est parti, presque instantanément. Disons au bout de 3 jours, il n'y avait plus rien, quoi. Le mal de dos disparaît, les nuits se font plus longues. C'est une personne qui est quand même pas capable de se réveiller au-delà de 7 heures. Elle fait des nuits saccadées depuis toujours. Elle se réveille le matin en me disant qu'elle n'a jamais aussi bien dormi. Elle fait une nuit de 7 heures non-stop. J'ai jamais vu ça. Donc, moi, j'étais très content d'avoir pris cette décision de fait. Est-ce que c'est dû à moi? J'en sais rien. Je pense que psychologiquement, il y avait tellement de stress avant. Que d'un coup peut-être que ça se calme un peu, parce que c'est pas à des coups de un quart d'heure de discussion par jour qu'on maintient une vie sociale active, et c'est quand même un élément qui est fondamental à mon échelle. Je le vois déjà, et je me suis toujours mis un peu à sa place, parce que je suis pas un petit enfant modèle, hein. Franchement, ça m'arrive quand même, quand j'habitais à Lyon, de pas aller la voir pendant des périodes beaucoup plus rallongées. Et je m'en voulais beaucoup. Je me rappelle que quand on était petit, nos cousins qui étaient de Marseille la voyaient plus souvent que nous, qui habituaient à une demi-heure de chez elle. Donc c'est tous ces reproches un peu que je me suis fait après coup, qui font qu'aujourd'hui on essaye, parce que évidemment il n'y a pas que moi, hein, on est des petits enfants aimants, mais voilà, donc on essaie. Enfin, en tout cas, moi je sais que c'est dans cette démarche de rattrapage, parce que j'aimerais pas. Que ça m'arrive. J'aimerais pas avoir à être enfermé 2 mois et demi. Alors chez moi, ce serait déjà une chance, parce qu'en résidence avec des gens qu'on ne connaît pas, etc., ça doit être encore plus difficile. C'est des situations que je n'ose pas imaginer. Mais oui, dans cette démarche-là, on essaye à fond. Mais effectivement, ouais, cette maladie est partie très vite, 3 jours je pense, ouais.
Et comment se passe ton départ?
Alors ça m'a pris j'avais pris une semaine de précaution où je me suis un peu mis à l'écart de ma famille, voilà, donc j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma chambre, j'ai pris mes derniers repas tout seul.
Donc tu l'as réfléchi, ce départ?
Ouais.
Toi ou pour elle?
Alors moi, consciemment, si j'avais causé quelque chose, une infection ou quelque part, je m'en serais sans doute pas trop remis. Puis bon, c'est une discussion. On est quand même dans un climat sanitaire extrêmement pesant, où on ne sait pas si on est porteur ou pas. Les tests n'existent pas trop encore, voire peut-être même pas en fait. On ne sait pas comment, par quoi ça se véhicule. Est-ce que c'est l'air ? Est-ce qu'il y a plein de rumeurs qui jaillissent tous les jours sur les réseaux, non seulement, mais qui sont véhiculées par la presse aussi, pour essayer de pas louper le coche de ce qui serait la cause de ce mal. Donc évidemment, ça se prépare, puisque en fait donc je prends le temps d'appeler ma tante médecin pour voir ce qu'elle en pense. Elle me dit voilà de juste prendre quelques précautions, quelques jours de repli un peu pour être sûr que je n'ai aucun symptôme. Je fais mes tests à chaque fois, j'essaye de me concentrer sur ce que je mange, est-ce que je sens vraiment toutes les saveurs, est-ce que je tousse, est-ce que je me sens voilà, et puis au final j'ai rien eu, donc au bout d'un moment faut y aller parce que ça devient pesant de son côté à elle, donc voilà.
Et alors le pendant, c'est l'après, c'est comment est-ce que tu lui annonces que ça y est, maintenant c'est un retour non à la vie normale, parce qu'on est loin du compte, mais en tout cas un retour toi sur Paris sans doute, et donc une séparation inévitablement. Mm-hmm. Comment est-ce que tu la prépares à ça, comment tu le fais, et toi aussi?
Alors elle le sait, elle en est consciente, elle sait que ça doit durer. Je suis censé emménager chez elle pour 3 semaines, 1 mois, et plus si confinement oblige, bien sûr. Après, ce qui est bien, c'est la période de transition. Entre confinement et déconfinement, il y a toute une phase qui a duré 2 semaines, 3 semaines, pendant laquelle on commence à avoir le droit de bouger un petit peu plus. Voilà. Moi, dans le même temps, j'étais censé emménager à Paris le 1er avril, donc j'avais du coup décalé cette date à début mai, et puis en fait, en mai, on est juste déconfiné. Donc j'ai pas envie de partir sur un coup de tête comme ça. Donc j'ai payé mon loyer à distance sur le mois de mai pour pouvoir emménager qu'en juin et faire une période un peu de transition. Là-dessus, on a la chance d'avoir une petite maison à la campagne à côté de Lyon, dans laquelle on a pu se déplacer aussi. Moi, j'ai pu commencer à faire un peu des allers-retours, respirer. Et puis au fur et à mesure, on passe de 7 jours sur 7 à 4, 3. Et puis au fur et à mesure, on atteint un rythme normal. Après,
comment tu l'as vécu, ouais. Et comment elle l'a vécu
ce déconfinement,
cette séparation.
Alors moi, de mon côté, j'avais une activité qui s'était lancée et qui ne s'était pas arrêtée pendant le Covid. Donc bien sûr, il a fallu continuer comme ça et puis emménager à Paris. Donc en fait, s'en est suivi toute une série de changements pour moi assez importants et assez excitants. Donc en fait, le départ m'a pas... Moi, c'était toujours un peu triste parce que je regrette ces moments un peu privilégiés où on parle pendant 2h30 à la fin du repas entre le plat et le dessert.
De quoi vous parlez ?
On parle d'un peu tout. On a beaucoup parlé, je me souviens d'une discussion particulièrement où en fait de la dernière fois qu'elle avait été un peu cloîtrée chez elle. Et c'est ça remontait à la Deuxième Guerre mondiale où elle était petite fille deuxième d'une grande fratrie et où elle nous raconte un peu du coup en fait moi j'avais voilà elle commence à me raconter un peu ces détails là de comment est-ce qu'il faisait pour s'en sortir avec là en plus un contexte qui était encore différent avec des rationnements etc nous ce qu'on a un peu moins eu enfin voire pas. Mais donc voilà, comment est-ce qu'on s'en sort et quels sont les points communs et les points de différenciation de ces deux périodes. Et c'était très intéressant. Donc s'en suit un peu toutes ces discussions-là sur sa jeunesse, sur la... C'est quand même une personne qui est née avant 45, donc avant tous ces changements sociaux qu'il y a pu avoir à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, qui a grandi dans les années 50, 60, 70, 80, qui a vu toute la période de l'URSS, un monde par bloc, etc. Donc c'est des discussions qui sont des sujets qui me passionnent et c'est super intéressant de pouvoir avoir un témoin, ouais. Qui soit pas un historien, ce qui est quand même un détail important aussi, puisque c'est vraiment plus des détails un peu plus émotifs qu'on va avoir de ces périodes-là. Donc c'est des grosses discussions.
Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette relation ?
C'est une question que je me pose même pas. C'est comme si on me demandait Est-ce que mes parents sont importants pour moi? Oui, puisque je partage énormément de choses avec eux. Ma grand-mère, c'est un rôle un peu différent, puisque mes parents ont toujours été là pour moi. J'ai la chance qu'ils soient un couple solide, qui m'ait toujours accompagné, toujours soutenu dans un certain nombre de domaines, voire dans tout. Avec elle, ce sera un peu plus différent, puisqu'elle n'a pas eu cette responsabilité de remplacement de parents ou de... Comme ça peut être le cas dans beaucoup de familles. Je pense que c'est un mélange de responsabilité, d'altruisme et d'amour en fait familial profond qui peut y avoir entre nous. La question d'utilité de la relation, c'est une question que je me pose pas, parce que en fait c'est pas le sujet. Je pense que c'est juste des relations de grand-mère à petit-fils. C'est très difficile à quantifier. Je pourrais pas dire que j'ai changé dans ma vie à des moments difficiles grâce à elle, qu'elle m'ait impacté dans des décisions. Je pense que c'est pas des choses, ce serait pas vrai. Je pense que psychologiquement, si, elle a toujours été là, etc. Et c'est juste une personne dans ma vie à laquelle je pense très régulièrement. Voilà, j'ai une alarme à 18h sur mon téléphone tous les jours pour l'appeler. Alors, dans la mesure du possible, quand je peux. Quand j'ai envie aussi, mais c'est quelque chose que je fais un peu qui est amusant, parce que voilà, 18h j'ai mon téléphone qui sonne, je fais ah merde, est-ce que je peux, puis bon, quand je peux je passe un coup de fil, ça prend 5 minutes, on s'épanche pas, c'est pas histoire d'avoir des discussions philosophiques à chaque fois, mais c'est des petits trucs qu'on s'impose au quotidien, qui nous font plaisir. C'est comme il y a le registre de l'effort aussi, évidemment.
C'est-à-dire
parce que moi, il y a des moments, faut vouloir aller rendre visite à sa grand-mère aussi. C'est voilà, je m'en veux un peu de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments, ouais, j'ai pas envie, quoi, parce que c'est des discussions différentes, c'est un rythme différent, mais ça fait un peu sortir de soi aussi. C'est un peu un miroir à qui on peut parler de tout un tas de trucs importants ou pas, mais c'est juste un moment un peu hors du temps où on va penser à autre chose que tout ce qui se passe autour de nous en permanence. C'est un moment aussi très ralenti, et ça j'y pense maintenant, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ces moments un peu plus ralentis dans une vie où moi je passe des fêtes, mes journées sur internet à communiquer, à courir partout dans Paris pour être au contact de des artistes avec qui je travaille, etc. Donc c'est un monde où je suis à 100 heures tout le temps. Ce qui fait que je rentre souvent à Lyon pour respirer un peu. Et ces moments-là, avec elle, c'est des moments où je respire vraiment. On s'est beaucoup rapprochés quand j'ai découvert le Tour de France, par exemple. On va faire la sieste ensemble devant le Tour de France pendant 2 heures. Et puis à la fin, on sera debout au moment de l'arrivée au Mont Ventoux, quoi. Enfin, c'est tout un tas de souvenirs assez marrants. De moments un peu de consécration comme ça. C'est ça que ça m'apporte, je pense. Ouais, non, c'est des moments privilégiés.
Cette relation, elle est particulière, quoi que tu en dises. Tu es à Paris, tu es dans un milieu branché, un univers très, très artistique, et néanmoins, tu as une alarme dans ton téléphone pour appeler ta grand-mère tous les jours à 18h. Tu auras beau dire que tout ça n'est que voilà, peut-être une suite logique de ce que t'ont inculqué tes parents, ou d'ailleurs est-ce que tu dirais que tu suis un modèle, en fait?
Ouais, je pense que c'est un modèle, clairement. Bon, la famille, ça a toujours été la priorité dans ma famille, justement. Et donc oui c'est sûr.
Donc c'est du mimétisme?
Du mimétisme, je sais pas, peut-être que ça doit être de l'éducation. Alors après, est-ce que c'est du mimétisme? Il y en a sûrement, puisque j'ai dû prendre exemple, forcément. Après, aujourd'hui, je suis aussi très conscient de ça, et je suis pas en train d'imiter une tradition. Je sais pas, si on s'entendait pas, ma grand-mère et moi, je ferais sans doute un minimum de démarche par respect, éducation, tout ça, mais je pense qu'il y a aussi, j'y trouve aussi entre guillemets mon compte en faisant ces démarches là, puisque ça apporte quelque chose. Après oui, c'est sûr que je pense que ça sort, ça ressort de l'éducation aussi, je pense.
Qu'est-ce qui vient d'elle chez toi?
Qu'est-ce qui vient d'elle chez moi? Je pense que je comprends fondamentalement aussi ce qu'elle ressent quand elle est dans tout ce qui est la déprime, tout ça, ces côtés un peu de dépression que moi j'ai pu ressentir, que je ressens plus depuis à peu près un an, mais que j'ai pu ressentir de manière extrêmement forte pendant 6 ans, pendant toute mon adolescence, etc. Et je pense qu'en fait l'adolescence, c'est le passage à la retraite, à la vieillesse, on découvre une nouvelle phase de notre existence où en fait qu'on soupçonnait pas. En tant qu'ado, on découvre, notre cerveau part complètement en live sur des nouveaux sujets, on comprend plus rien, on n'a plus confiance en nous, on se trouve pas. C'est très bizarre parce que j'avais l'impression en même temps d'avoir un cerveau tellement développé à ce moment-là, à force de réfléchir à tout en permanence, et d'être tellement pas bien dans le monde en fait, qu'aujourd'hui en fait je pense que c'est assez en lien avec les personnes âgées. Je pense que ce qu'elles peuvent ressentir, ce que elle doit ressentir en tout cas quand elle a ses déprimes, quand elle a ses, voilà, ces moments de comment survivre après un deuil de son conjoint de toujours, puisqu'en plus on est dans un cas où elle est restée mariée pendant toute sa vie avec la même personne, mariage assez tôt, etc. Donc c'est des compagnons de vie qui sont plus que des appuis. À un moment, c'est presque une partie de soi-même qui s'en va. Comment vivre après une grande crise comme ça? Et ça, une crise d'ado, je pense que ça doit avoir à peu près la même violence, le même type de violence mentalement. Donc je pense par là, on s'est pas mal compris sur ce côté-là. Alors après, moi, je vais beaucoup mieux maintenant. Donc c'est, voilà, mais j'arrive à avoir toujours cette compassion en tout cas, parce que je pense avoir touché du doigt ce qu'elle doit ressentir. Après, qu'est-ce qu'il y a d'elle chez moi? C'est difficile.
Elle a quel âge, Michel?
Elle est née en 1933, elle a 87 ans.
Elle peut vivre seule, donc elle est encore autonome.
Oui.
Est-ce que vous pensez la suite avec tes parents, ton père?
Alors, j'avoue que la suite, c'est pas encore posé. La suite s'est posée il y a quelques années. Elle a vu des soucis de santé, donc on l'avait emmenée dans un hôpital gériatrique pendant 2 semaines. C'était assez chaud. J'avais 15 ans, donc je me rappelle pas du tout ce qui se passait exactement, mais je sais que ça avait été un peu tendu sur ce moment-là. Et j'avais pas eu la discussion avec mes parents. C'est sûr que en tout cas mon père et ma tante en ont parlé, probablement. Aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle habite en face d'un EHPAD. Donc de la fenêtre de sa chambre, elle voit les résidentes à qui elles font des coucous, c'est assez drôle d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est une idée qui lui fait extrêmement peur. Parce qu'elle sait que les résidentes à qui elle fait coucou, elle les voit très rarement de plus de 2 ans en fait. Voilà, la nuit, les ambulances silencieuses dans la rue, elle sait. Ce que ça veut dire, et donc c'est une maison qui signifie un peu la fin pour elle. Alors est-ce qu'on est contre cette solution là pour l'instant, la question se pose pas, puisqu'effectivement elle est indépendante. Le jour où elle a un pépin de santé un peu plus grave que nous on peut pas gérer, pas que à cause du temps mais à cause des compétences techniques, on serait sans doute contraint de le faire. Après, il y a toujours la question d'être soignant qui se déplace, etc., dans la mesure du possible. Pour l'instant, c'est une question que je réfute un peu, que j'envisage pas. Dans mon rôle de petit-fils, je laisse faire mon père, entre guillemets. Mais c'est vrai que voilà, le plus longtemps elle restera chez elle, le mieux ce sera, je pense, pour elle, parce que effectivement dans son cas et les déprimes, tout ça, partir de son quotidien, fuir la routine, fuir ça peut s'avérer un peu plus compliqué, effectivement.
Charles, est-ce que tu as l'impression d'être un peu un ovni parmi tes amis de ton âge ?
Alors, les sujets des grands-parents ne sont pas forcément des sujets dont on parle souvent, voire assez peu en fait. Mes amis les plus proches ont en revanche des relations assez privilégiées avec leurs grands-parents. Alors après, est-ce que techniquement pendant le confinement tout ça il y a eu rapprochement? Je sais qu'il y a eu des rapprochements, je pense à un ami en particulier qui est rentré dans le sud et qui lui habitait pas loin du tout, donc qui a pu voir son grand-père assez fréquemment. J'ai pas l'impression d'être en ovni, je pense que en fait j'ai pas l'impression d'être en ovni parce que j'ai pas l'impression de faire plus que je devrais faire en fait. C'est un peu le côté devoir aussi qui vient. Je parlais de responsabilité tout à l'heure. Alors responsabilité sans que ce soit un problème, c'est ça que c'est important. C'est pas forcément quelque chose d'embêtant à gérer, loin de là. Mais c'est un devoir familial. Je pense que quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin ou qui a besoin peut-être d'aide un peu plus d'attention, voilà, c'est quelque chose que je fais. Alors après. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres familles, c'est pas un sujet qu'on a beaucoup, mais en tout cas dans mes proches, dans mes amis proches, on est sur les mêmes longueurs d'onde. Ouais.
Vous êtes reconnus.
Oui.
Bon, bien sûr, il y a eu ce Covid, on est encore dedans. On voit qu'il y a un semblant de réveil de la société. On sait aussi qu'en 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans. Est-ce que tu considères aujourd'hui que la société... laisser ses vieux sur le bas-côté de la route ou
Je pense que oui. Et fondamentalement, ça vient pas des vieux. Ça vient d'un... C'est assez difficile à exprimer, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que la société actuelle manque de spiritualité. Alors, quand je dis spiritualité, ça ne veut pas dire venir automatiquement religion. Mais spiritualité, c'est la conscience de soi et la conscience du monde et la conscience de la mort. Et je pense qu'on est dans une société où la mort est un scandale. C'est scandaleux, la mort. Quand on a des décès autour de soi, c'est jamais simple. Mais un truc extrêmement important, et je pense qu'on a oublié, et qui crée, enfin ça a l'air infime, mais ça crée une quantité de conséquences néfastes aujourd'hui, c'est que ce scandale, il n'y a rien de plus naturel en fait que de mourir, bien sûr, puisque je ne sais pas combien d'êtres humains ont foulé la Terre... depuis que notre espèce existe, mais il y en a un certain nombre qui sont morts depuis, donc il n'y a rien de plus naturel. Et en fait c'est extrêmement dangereux comme démarche, je pense, parce que dire que la mort ne devrait plus arriver avec ces démarches d'immortalité, on va essayer d'être le plus jeune le plus longtemps possible, la vieillesse c'est la vie en fait. Donc en fait si on se met à rejeter la mort, on se met à rejeter les personnes qui vont mourir puisqu'on n'a en fait pas envie de les voir. Du coup, en fait, on finit par remonter de plus en plus le processus. Et aujourd'hui, on est vu à 50 ans. 50 ans, c'est la moitié de la vie. Et avec le digital, moi, je suis dedans. Je suis presque déjà un vieux. Avec les nouvelles plateformes qui naissent, etc. J'ai 24 ans. Il y a TikTok. Maintenant, il y a Thriller qui sort, machin. Je me suis retrouvé l'autre jour dans une soirée d'amis. Ils avaient 16 ans, il y avait son petit frère qui faisait une soirée, sa petite soeur qui faisait une soirée, ils avaient 16 ans, ils faisaient des trucs que moi à 16 ans, ma soirée elle ressemblait pas du tout à ça. Et donc c'est impressionnant les changements. Donc voilà, je peux pas parler comme un vieux justement, mais c'est un peu ça. Donc en fait c'est très dangereux, je pense, de reculer toujours plus jeune l'âge d'or de la vie en fait. Et je pense qu'il y a rien de plus grave. Et je pense que c'est la conséquence principale du fait qu'aujourd'hui les personnes âgées sont encore peu considérées. Et c'est très triste parce que je pense que leurs parents étaient mieux considérés. Et je pense que mes parents, donc leurs enfants, seront mieux considérés. Enfin, j'espère en tout cas, parce que je pense qu'ils représenteront déjà un électorat conséquent. Donc le politique pourra pas s'en passer. Et peut-être que ça peut faire avancer les choses, sans être complotiste ni quoi que ce soit, mais je pense qu'effectivement, cette démarche du toujours plus jeune est dangereuse, et ça vient d'un... pour moi d'un manque de conscience de la mort, de spiritualité.
Merci beaucoup Charles.
Merci beaucoup Nathalie.
Comment tu t'es senti?
Très bien.
Ces confidences.
Très bien. C'est très intéressant comme démarche puisque encore une fois je considère pas avoir un parcours improbable, mais pouvoir en parler et pouvoir échanger dessus, ça permet aussi pour moi de me rendre compte de certaines choses et de l'importance que ça peut être à moindre échelle. C'est très intéressant.
Merci de votre écoute et de votre fidélité à Courage au cœur et Sakodo, le podcast. Hashtag CCSD sur Twitter pour échanger et dialoguer. Et si vous souhaitez prolonger ce moment, je vous rappelle que mon livre, Courage au cœur et Sakodo aux éditions du Rocher, est dans toutes les bonnes librairies. J'y raconte mon histoire, ma relation singulière avec Rosine, ma grand-mère. Merci à Benjamin Vincent, Watch Audio, pour la production, le partage, les bonnes ondes bien sûr. Et puis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre, une nouvelle belle histoire intergénérationnelle.